Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée, l'émission proposée par la Fédération des libres penseurs de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui avec moi au micro Charles, bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Et c'est parti pour une nouvelle saison de notre émission Raison gardée, je ne sais même plus si c'est la deuxième ou la troisième. En tout cas, cette année, on repasse en format mensuel. Vous pourrez nous écouter le dernier lundi du mois, désormais, pendant une heure, le lundi à 11h, et nous réécouter en rediffusion sur la grille d'RCN qui nous accueille. Et nous remercions la radio de cet accueil. Alors peut-être va-t-on redire un mot pour commencer cette saison de ce qu'est la Libre Pensée, qui est une fédération nationale, qui a donc ici une antenne départementale. C'est une très ancienne association, loi 1901, mais qui existait déjà avant le statut légal de ces associations, et qui défend, alors de manière générale, la libre pensée. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire défendre la libre pensée? C'est d'abord très concrètement, et c'est un des premiers combats pour lesquels l'association est connue, défendre la loi de séparation des églises et de l'État. La loi dite souvent de 1905, la loi dite aussi de la laïcité le plus souvent. Et notre association veille à ce que l'esprit et la lettre de cette loi soient préservés, ce qui n'est pas un combat du passé du tout. On pourrait parler de la loi séparatisme, par exemple, qui a été promulguée par un gouvernement précédent, mais toujours sous la présidence d'Emmanuel Macron, et on aura l'occasion d'en dire un petit mot tout à l'heure. C'est aussi une association qui est plutôt antimilitariste et qui prend position à propos des guerres, de toutes les guerres, coloniales ou pas coloniales, mais là aussi les guerres coloniales sont tristement d'actualité. C'est une association qui a pris fait et cause contre, à ce titre, le service national universel. On en dira un petit mot tout à l'heure, parce que c'est encore l'actualité. Et c'est une association, qu'est-ce qu'on peut dire encore, qui est très très soucieuse aussi de l'école publique et de la défense des services publics.
Eh oui, c'est ça. Sylvie, tu as raison, mais à propos de la laïcité, c'est vrai qu'on, pas tous les jours, mais presque, nos élus ont un comportement qui est souvent discutable, voire condamnable au niveau de la laïcité. En participant notamment à des cérémonies religieuses, en portant des signes religieux aussi, alors qu'ils devraient être neutres dans ce domaine-là.
On sait aussi, nos camarades des Sables d'Olonne se sont battus pour faire retirer une statue représentant Saint-Michel, c'était aux Sables d'Olonne, qui un projet porté par le maire qui a installé cette statue dans l'espace public, ce qui est en contradiction absolue et très très nette avec cette loi de séparation des églises et de l'État. C'est symbolique, mais c'est un symbole qui a du sens, et la libre pensée a fait valoir le droit et a obtenu gain de cause.
Oui, ça c'est.
Alors, je vous propose un premier sujet, moi, qui m'a été inspiré par des choses qu'on a apprises dernièrement, qui concerne une icône qui n'était pas seulement une figure importante pour les croyants, mais qui était aussi une figure très très populaire en France, une icône qui tombe de son socle comme d'autres. Je pense bien sûr à l'abbé Pierre. On a appris progressivement, de semaine en semaine, que les plaintes, les histoires d'agressions sexuelles se multipliaient. On a appris de la bouche même du pape, il me semble, que le Vatican savait. Des archives ont été ouvertes et c'est à nouveau un cas qui interroge quand même sur la façon dont, alors plusieurs choses peuvent être traités, la façon dont l'Église, avec un E majuscule, l'Église catholique, traite ce genre de situation. Et puis interroger aussi peut-être le célibat des prêtres, la façon dont se vivent ces personnes, et la façon dont l'Église, surtout, traite les victimes dans ce genre de situation. Alors pour dire peut-être juste un petit mot de rappel à propos de celui qu'on appelle l'abbé Pierre, c'est un pseudonyme, hein, il s'appelle Henri Grouès, il était né à Lyon, il est mort à Paris. C'est quelqu'un qui est connu, et c'est à ce titre que c'est une figure qui était pour tous très populaire et très positive, comme le fondateur du mouvement Emmaüs, que nous connaissons tous. Il a été aussi fondé la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. C'est quelqu'un qui est né d'un milieu plutôt bourgeois et catholique, donc de Lyon, qui avait fait ses études chez les jésuites, qui avait été scout de France et qui est entré dans les ordres en 1931 chez les Capucins. Donc il a fait vœu de pauvreté. Donc à ce titre, il renonce à son patrimoine familial, il en fait don à des œuvres caritatives. Il est ordonné prêtre en 1938. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est d'abord hospitalisé, mais surtout, on a dit de lui qu'il avait recueilli des enfants juifs dont les familles avaient été arrêtées et déportées. Il a contribué à faire passer en Suisse un frère du général de Gaulle. Il a aidé des personnes qui étaient réfractaires au service du travail obligatoire, le STO. Donc c'est une figure de la résistance. Il fait partie de ces gens qui, au quotidien, dans leurs actions, ont essayé de lutter contre l'occupant et de protéger les victimes du nazisme et des lois vichistes. Après la guerre, il s'est présenté aux élections législatives et il a été élu député 3 fois et député de Meurthe-et-Moselle. Donc c'est pour ça que je me disais, c'est une affaire nationale, mais c'est aussi une figure de notre département qui mérite donc qu'on s'intéresse un peu à son parcours. Il a donc toute cette carrière politique. C'est d'ailleurs quand on parle des vêtements et de la religion et la façon dont un vêtement peut ou pas s'inscrire, un vêtement religieux peut ou pas s'inscrire dans la vie politique, c'est souvent un cas de figure que l'on évoque, hein, de l'abbé Pierre venant en soutane à l'Assemblée nationale.
C'était pas le premier, hein. Il y avait aussi Shannon Keir.
Et c'est en 1949 qu'il fonde le mouvement Emmaüs. Donc Emmaüs, c'est une référence à un épisode d'un évangile, l'évangile selon saint Luc. Ce mouvement, en revanche, le mouvement Emmaüs, est une organisation laïque, à la différence d'autres organisations caritatives qui sont encore religieuses. C'est une organisation laïque qui a pour but de lutter contre l'exclusion. Et ces communautés se sont développées à telle enseigne que ce sont des communautés qu'on trouve un peu partout en France.
Et dans le monde,
et qui ont une réputation excellente, qui font un travail vraiment d'accompagnement des personnes exclues, qui leur donnent quelque chose à faire qui est utile pour la société, qui permet ainsi leur insertion sociale. Et il y a bien sûr eu, des films, on pense à Hiver 54 avec Lambert Wilson, justement cette année-là, cet Hiver 54, ce cri de colère de l'abbé Pierre sur la misère suite à la mort d'un homme...
D'une femme qui était dans la rue avec son enfant. C'est plutôt là qu'il se battait pour le logement. Ah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu leur logement après la guerre et là, il s'est battu aussi pour le logement. C'est vrai que cette aura-là, on ne peut pas lui enlever. Il y a deux hommes, quoi, finalement, dans cet homme-là, quoi.
Oui, voilà, parce que tout le monde avait cette image-là en tête. Il y a très souvent des palmarès, des personnalités préférées des Français. Je ne sais pas combien de fois l'abbé Pierre s'est retrouvé en tête. Bon, après, on ne sait pas ce que vaut non plus ce palmarès. Mais bon, c'est pour dire que dans l'esprit collectif...
Il n'y a pas un homme politique qui ne s'est pas fait prendre en photo avec l'abbé Pierre, hein, pour se donner une aura aussi. C'est d'autant plus effarant que beaucoup de ces personnes-là étaient au courant, puisque l'Église est au courant depuis 1956, des exactions de l'abbé Pierre. Il y a deux phénomènes dans la sexualité de ces prêtres qui n'ont pas fait de vœux de chasteté, il faut quand même le souligner.
Donc, quand c'est de célibat.
Oui, mais de célibat, c'est sûr. Mais, je veux dire, tant que c'est entre personnes consentantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est le viol. Et aussi, pourquoi ça ressort des années après sa mort. Hein, ça fait un moment que l'abbé Pierre a disparu et ça sort seulement. Est-ce que le hashtag MeToo a aidé ces personnes-là à dévoiler ces comportements? Certainement. Mais je sais aussi quand il était aussi aux États-Unis ou au Canada, et ils ont dit on n'en veut pas, ils ne voulaient pas. Ils avaient donc des gens qui étaient bien au courant quand même. Donc c'est le silence de l'Église qui est effarant et le silence des personnalités qui connaissent ça qui est effarant. On met la poussière sous le tapis pendant des années parce que il représentait tout ce que tu viens de citer de positif chez l'homme-là, quoi.
Oui, il est mort en 2007. Mmh. Donc voilà, on est en 2024. Il faut effectivement beaucoup de temps pour que les langues se délient. Oui. Il y a un article dans un magazine culturel et de télévision qui commence par télé et qui se termine en Rama, mais je ne vais pas faire de publicité, qui a fait un dossier cette semaine qui pose cette question. Les causes ont-elles besoin d'icônes? Et il récapitule effectivement quelques faits et notamment il rappelle que des gens savaient ce que le pape actuel a reconnu et qu'en fait il était suivi un peu surveillé l'encadrer mais que ces agressions ont bien été commises et que tout a été caché. Alors pourquoi justement? Eh bien dans ce dossier ils expliquent à quel point l'abbé Pierre était devenu une icône médiatique. Donc ceux qui savaient n'en ont pas parlé, ceux qui en avaient eu vent du côté journalistique n'ont pas vraiment cherché à creuser. Après, il est sûr qu'à cette époque-là, on en parlait nettement moins. Il est clair que MeToo et la libération de la parole aident désormais à ce que ces affaires sortent. Et ils emploient des formules, par exemple, l'abbé Pierre était devenu l'incarnation de l'insurrection de la bonté. Et ils disent aussi à quel point, pour les médias, l'abbé Pierre était vraiment le bon client. C'est-à-dire qu'il cochait toutes les cases. Un monsieur qui avait l'air sympathique, une tenue iconique, vraiment, c'est reconnaissable entre tous. Un combat que nous ne pouvons que partager tous collectivement, d'être de l'autre, de combattre contre la misère, de permettre à chacun de trouver sa place dans la société. Et cette incarnation, en quelque sorte, ne supportait pas d'entailles, quoi, qu'on la mette à mal. Alors, ce qui explique aussi, c'est un autre point de leur dossier, que tirant les leçons, peut-être, de ces figures sanctifiées, intouchables, et qui, en fait, ne le sont pas, ni saintes, ni intouchables, des mouvements, aujourd'hui, préfèrent disposer d'une équipe de porte-parole, d'avoir plusieurs personnes qui incarnent un combat, pour éviter aussi que, justement, les combats portés par la personne se trouvent entachés par ce qu'est cette personne, ce qu'on peut apprendre d'elle. Et qui, effectivement, peut poser, j'imagine bien que, justement, c'est une enquête qui avait été demandée par Emmaüs, hein, on imagine bien aussi le trouble qui peut être jeté dans l'esprit de ceux qui travaillent pour Emmaüs à un moment donné. Alors, ce problème de l'abbé Pierre, il est quand même aussi, si on dézoome un peu, à lier à d'autres histoires d'évêques, de prêtres qui ont été protégés par le Vatican. Alors, dans la revue mensuelle de La Raison, dans un numéro qui ne date pas d'il y a très longtemps, si on regarde même à l'étranger, hein, en Espagne, il y a eu un rapport qui avait été demandé sur les abus sexuels de l'Église espagnole. Donc c'est un article qui a été publié là, cette année, en début 2024. Et les évêques espagnols, bien sûr, se sont empressés de contester toutes les conclusions de ce rapport. Il critique bien sûr, hein, les personnes qui ont été chargées de le faire, Et ces affaires d'abus sexuels en Espagne, elles sont aussi très médiatisées depuis quelques années. Et un médiateur national avait produit un rapport qui avait été commandé par le Parlement espagnol en mars 2022 et qui tentait de chiffrer le nombre de personnes victimes d'agressions sexuelles, mais notamment par des personnes qui relèvent de la sphère de l'Église. Alors le nombre exact est toujours incertain, on sait combien les victimes hésitent à porter plainte et à se faire connaître. Ils ont tenté de travailler sur la constitution d'une base de données. Et les évêques, eux, ont produit, ces évêques espagnols ont produit une sorte de contre-rapport pour contester la validité du travail qui avait été proposé. Donc là, par exemple, c'est un cas de figure. Mais des chercheuses suisses aussi ont demandé à accéder à des archives pour travailler sur les victimes d'abus sexuels commis par des membres de l'Église catholique en Suisse. Donc deux chercheuses, Monica Doman et Marietta Meyer, deux historiennes de l'université de Zurich, et qui constatent qu'on ne veut pas leur donner accès aux archives de l'Annonciature pour pouvoir travailler sur ce sujet. Une réticence très forte de l'Église. Pour revenir en France, on se souvient, il y a peu, du rapport qui avait été proposé aussi, le rapport Sauvé. Charles, si tu veux
nous rappeler. C'est l'affaire de Lyon, l'affaire Barbarin, qui pensait que l'affaire était prescrite. Hein, grâce à Dieu, c'est prescrit, avait dit Barbarin. Et ben oui, il y avait même un film qui a été fait sur ce...
De François Ozon,
qui est un très bon film, qu'on peut voir certainement en podcast quelque part. Le problème, je pense que aussi, si l'Église est aussi véhémente sur les accusations, qu'elle ne peut pas toujours réfuter, mais qu'elle prétend que c'est ancien ou autre, c'est l'indemnisation des victimes. Et il y a un exemple d'indemnisation des victimes qui leur fait froid dans le dos. Ça se passe aux États-Unis. Je ne sais pas de quelle année ça date, mais aux États-Unis, il y a eu donc l'Église catholique qui a été mise en accusation, notamment des problèmes de pédophilie, notamment, un peu comme à Lyon d'ailleurs, hein, puisque c'était l'aumônier des scouts qui abusait des jeunes enfants de Lyon, là, qui ont porté plainte par la suite. Donc les indemnités aux États-Unis sont à la hauteur de ce qu'on fait aux États-Unis quand on a un bon avocat. L'Église catholique est obligée de sortir vraiment des sommes importantes pour indemniser les victimes. Et ça aussi, c'est le problème de l'indemnisation des victimes en France, avec du rapport Sauvé. On va faire traîner les choses. Parce qu'il y en a déjà qui sont disparus, puisque déjà forcément, ça date de vieux. Donc, l'Église catholique, il va falloir qu'elle ouvre le portefeuille. Et ça, c'est pas dans le genre d'ouvrir le portefeuille pour ce genre de délit, de crime, je dirais. Hein, puisque quand ça concerne un enfant, pour moi, c'est un crime. Un adulte qui abuse d'un enfant, c'est un crime. Hein.
Avec toute l'autorité, en plus.
On le retrouve dans tous les milieux aussi, qu'on peut retrouver dans le cinéma, chez les patrons, ou chez les personnes qui ont une aura, qui abusent de leur pouvoir ou de leur statut social pour abuser des personnes qui sont sous influence.
Oui, le film dont tu parlais de François Ozon, il date de 2018 et il évoque ces affaires Préna et Barbarin. Et le titre « Grâce à Dieu », oui, c'est une référence à une expression que spontanément Barbarin a utilisée en conférence de presse, qui concerne donc des victimes d'abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique de France. Et en particulier, donc là, c'était dans l'archidiocèse de Lyon. Oui, c'est un film assez... assez terrible, assez édifiant, construit uniquement sur des faits réels. Voilà, des noms ont été changés, il me semble, mais le film retrace assez clairement les événements et montre toute cette difficulté à dire les choses au sein de familles, la façon aussi dont, au sein de certaines familles, on préfère taire, parce qu'on a peur de la honte, parce que on veut pas nuire non plus à une sorte de communauté dans laquelle on est plongé dans les familles qui ont des habitudes très religieuses et qui sont vraiment pleinement plongées dans la communauté des croyants catholiques. Voilà, c'est vraiment un film, si vous l'avez pas vu, on vous conseille d'aller
le regarder. En plus, il est Je veux dire, il est pas véhément, il est pas dur. Il rapporte les faits, voilà.
Bah écoutez, je vous propose de faire une petite pause musicale.
Un peu moins con, ça saurait. Bout du con, s'il est aussi bon qu'on le dit, ça se verrait. Et pardi, hey. Mais après tout, il est comme il est, Dieu et surtout comme on l'a fait, pas plus malin ou bêta qu'un autre. Ni moins mauvais apôtre, cependant ce qui me gêne chez ce coup d'âme, qui est peut-être même qui c'est une dame, ce qui frise les c'est d'élégance, c'est de ne briller que par son absence. T'as la combine de la divine, moins on ne voit plus, on t'imagine, plus on fabule. Sur ta bobine, de l'au-delà, t'es la Garbo, t'es la Greta, tous les ballots qu'ont besoin d'un de se sauter de leur vie. En fait, tous ceux, vieille branchée, oui, à qui tu dois d'être encore là. Je suis un homme, et ça me suffit, pas besoin qu'un goût, roue à la gomme, qu'un Bouddha ou qu'un Jésus-Christ, qu'un grand rabbin, qu'un alaquin, anachorète, me prenne la main. Que sais-je encore, elle prenne la tête, ses bouches d'or, de toute secte, de tout bord, ton assidu, pareil au même, se taper dessus, c'est pas la peine, pour ces foutus énergumènes. La foule notoire des abonnés à tel ou tel père éternel. Je voulais seulement dire en passant à tous ces gens, fans hermétiques, parfois virants, aux fanatiques, qu'en sacrifiant conscience et âme à une croyance, à un programme, qu'en brigader
conscience et âme, par allégeance, à un programme,
en fourbissé, messieurs, mesdames, aussi des armes d'intolérance. Par-dessus bord, basta, suffit de rester en berne. Cessons encore prendre nos messies pour des lanternes. Vous comprendrez, je préfère rester au fond de mon lit à méditer avec mamie, qui est bonne comme du pain pas béni, du pain perdu à la myrtille. J'aime mieux visiter quelques endroits de paradis, du bout des doigts, dans des pays tout en dentelle, et qui tout droit vous mènent au ciel.
La Tordue qui va nous accompagner pendant cette émission de Raison Gardée que vous écoutez sur RCN. Nous parlions à partir de l'abbé Pierre de la question des abus sexuels au sein de l'Église catholique et de la façon dont elle les traite. Il y a aussi un sociologue qui s'appelle Jocelyn Tricot qui a travaillé sur cette question dans un ouvrage qui s'appelle « Des soutanes et des hommes » qui a 3 ou 4 ans. Et il a enquêté sur la masculinité des prêtres catholiques. C'est une étude qui est intéressante et qu'il avait présentée on peut retrouver un article, un entretien avec lui sur le site de Mediapart, où il explique combien justement la façon de traiter cette question de la sexualité et des violences sexuelles au sein de l'Église est marquée par le déni évidemment. Il a construit toute une enquête solide pour pouvoir mener ses analyses. Et alors, il donne plusieurs éléments pour comprendre un peu la situation. Le fait qu'il y a quelque chose de très conservateur dans des familles dans lesquelles il y a eu des victimes de ces agressions. Et que ce qu'on disait avant notre pause, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de protéger quand même la communauté, que la hiérarchie catholique joue souvent la carte du secret de la confession, en estimant que leurs lois, en fait, hein, sont supérieures aux lois de la République. C'est ce que laissait aussi penser la formule de Barbarin quand il disait « Dieu merci, enfin grâce à Dieu, les faits sont prescrits, mais il y a la justice des hommes, et celle-là, elle est faite autrement, et c'est celle-là que nous devons tous respecter ». Et interrogé sur un mouvement au sein de l'Église qui pourrait aller vers une sorte de démasculinisation, il dit qu'effectivement, parmi les conseils qui avaient été notamment formulés dans le rapport Sauvé, mais par d'autres, il y avait cette idée que même si l'Église catholique résiste encore à l'idée d'ordonner prêtres des femmes, il fallait qu'il y ait plus de femmes, plus de mixité au sein de l'Église. Pour justement contribuer vraiment à modifier les comportements qu'on pouvait y trouver. Il dit qu'il y a effectivement un regard sur la masculinité, hein, dans la formation des prêtres et au sein de l'Église, qu'il faudrait complètement déconstruire et transformer. Voilà, je vous invite à aller consulter cet ouvrage où vous retrouvez peut-être cet article en ligne qui est vraiment une étude tout à fait intéressante. À Nîmes, si je ne me trompe pas, il a été décidé de débaptiser une place Abbé Pierre pour marquer justement le fait que désormais, puisque nous savons, il est impossible de continuer à mettre à l'honneur ce personnage. Et c'est une sorte de transition pour moi par rapport à des mairies qui ont fait des choix justement de mettre à l'honneur dans l'espace public des figures qui sont contestables et sur un autre sujet. Un sujet qui, au moment où nous enregistrons, est d'actualité puisqu'il porte sur les liens entre la France et l'Algérie. La statue à laquelle je pense, c'est celle du général Bijard. Donc là, nous sommes désormais en train de parler à nouveau d'un député, un ancien député de la Meurthe-et-Moselle, mais un sujet qui est très local et très actuel, et en même temps qui a une ampleur nationale, puisque le 17 octobre dernier a été commémoré un massacre orchestré par la police française aux ordres du préfet Papon. C'était le 17 octobre 1961.
Exactement, oui. Ça s'est passé à Paris et il y a eu de nombreuses personnes qui ont été noyées, mais aussi d'autres qui ont été emmenés par la police, qui ont été, on ne sait pas trop, on ne connaît pas exactement le chiffre de disparus. Et là, c'est depuis cette année, ou peut-être je ne sais pas quand, mais cette cérémonie à Paris a presque toujours eu lieu. Hein. Il y a même un président de la République, dont j'ai oublié le nom, qui a participé à cette commémoration-là. Et là, ça se fait un peu partout en France, maintenant, le 17 octobre, donc il y a ce massacre des Algériens, des travailleurs, hein, c'était des travailleurs qui étaient en France, qui travaillaient souvent dans l'automobile, hein, surtout à Paris, hein, Citroën, Peugeot, pour ne pas les citer, mais bon. Mm-hmm. Et là, le préfet Papon avait un passé quand même assez... il était qualifié pour faire ce sort de saloperie. C'est sous De Gaulle, en plus, c'est ça qui est terrible. Mm. Et ça a été aussi une affaire qui a été étouffée par les médias pendant de longues, longues années, sauf peut-être l'UMA.
Oui. Bah oui, Papon, que je ne dise pas de bêtises, il a été condamné en 98 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, pour les actes d'arrestation, séquestration, organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy, donc déjà où ils ont été acheminés ensuite tous vers Auschwitz, dont on sait très bien que... quasiment personne n'est revenu. Et puis, donc il était à l'époque secrétaire général de la préfecture de Gironde, entre 1942 et 1944. Et puis, effectivement, il est préfet de police de Paris à partir de mars 1958, comme beaucoup de fonctionnaires totalement collaborationnistes et coupables de crimes contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont tranquillement pu continuer leur carrière. Et donc, il est très clairement impliqué dans cette répression sanglante. Donc, on peut rappeler peut-être que donc ce sont des centaines d'Algériennes et d'Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris le 17 octobre 1961, et notamment contre le couvre-feu qui avait été imposé par un décret donc de Papon. Cinq mois avant les accords d'Évian, la Fédération française du FLN algérien avait organisé une manifestation pacifique pour réclamer la levée de ce couvre-feu et aussi l'indépendance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'évidemment, c'est une date importante dans l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, entre la France force coloniale et l'Algérie, pays colonisé, avec un peuple qui réclamait des droits à son indépendance. Une histoire longue qui avait commencé au 19e siècle, dans le sang, évidemment, comme à chaque fois.
Avec un bon général qui s'appelait le général Bugeaud.
Oui, Bugeaud.
Qui a commis des horreurs, comme enfumer les gens dans des grottes, des destructions de villages, de familles. Oui, c'est vrai que c'est un personnage qu'il faudrait quand même remettre dans l'histoire, comme beaucoup de gens qui ont participé aux colonies, avec beaucoup de zèle, hein, parce que l'armée n'est pas là pour faire de la dentelle, ça on le sait, malheureusement, surtout à l'époque coloniale.
Non, il est sûr. Et puis, leurs attitudes, les choix politiques et les attitudes individuelles de ceux qui ont obéi aux ordres sont très nettement marqués par un racisme profond qui pour eux justifie leurs actes. C'est cette idée qu'il y aurait une supériorité des uns sur les autres qui justifierait tout. Oui, Bugeaud a fait tuer des personnes qui étaient acculées dans des grottes et il les a enfumées pour les asphyxier et pouvoir, quand ils essayaient de sortir, les exécuter. Tout cela a été bien documenté par les historiens depuis fort longtemps.
Le pouvoir militaire, comme tout pouvoir, il se réfugie d'ailleurs, on obéissait aux ordres. On entendait ça aussi dans la collaboration avec les nazis ou les collaborateurs français. On a obéi aux ordres. Mais jamais ils se posent en réel tortionnaire. Ils n'ont aucun état d'âme. Ils n'ont pas. Ils ont obéi aux ordres. Voilà. C'est quand même un peu facile de se retourner contre les politiques, même s'ils ont, bien sûr, les politiques ont une part de faute là-dedans. Mais jamais ils ont dit, oui, on est des salauds, quoi. Mmh. Ils demandaient pardon, au minimum.
Cette manifestation, elle mêlait aussi des femmes et des enfants qui ont été victimes, comme les hommes ce jour-là, de cette répression policière. Et les victimes se comptent par milliers. Hein. Tu disais, on n'a pas forcément le chiffre exact, mais il y a aussi toutes ces disparitions que tu évoquais. Et par exemple, il y a un appel qui a été lancé, hein, signé par de très nombreuses associations, 93 au cœur de la République, Agir contre le colonialisme aujourd'hui, Les anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre, la 4ACG qui a aussi soutient aussi l'action du collectif qui s'est créé à Toul contre l'installation de la statue de Bijar, je vais y revenir, la DTF, l'Association démocratique des Tunisiens de France, Attaque, le collectif Fatih Koumba, enfin voilà, il y a vraiment le MRAP, bien sûr, énormément d'associations qui demandent à l'État français de reconnaître clairement que ces faits, cette répression sanglante du 17 octobre 1961 est un crime d'État. Ils demandent aussi la reconnaissance de ce crime pour que puisse se reconstruire une mémoire collective qui soit débarrassée de toutes ces discriminations mémorielles et qu'on puisse aborder sans aucun déni et vraiment de façon objective le passé colonial. Il demande aussi un accès libre aux archives pour les historiennes et tous les historiens, et puis les citoyennes, les citoyens qui le souhaitent, pour que les chercheurs aussi puissent travailler avec tous les documents en main. Ce processus d'ouverture d'archives est en train de se faire. Et il demande aussi que soient créées des conditions de transmission historique et mémorielle par la mise en œuvre notamment d'un musée d'histoire du colonialisme. Cette demande rejoint aussi une idée qui est portée par le collectif contre l'installation de la statue de Bijard à Toul. Donc Bijard, il a été, enfin c'est quelqu'un qui a construit sa légende. Il a été présenté comme un héros de la guerre d'Algérie. Il a toujours nié avoir pratiqué la torture, mais il n'a jamais nié quand même l'avoir enseigné ou qu'elle était pratiquée. Il avait, dans une interview avec Anne Sinclair dans les années 1980, plus ou moins vanté les qualités de son équipe pour cette torture, en disant voilà, on venait chercher Bijard parce que Bijard travaillait correctement, enfin il avait cette façon de parler de lui à la troisième personne. Il a travaillé sur sa légende à travers des textes autobiographiques. Alors, c'est assez vite dit parce qu'en réalité, il évoque son parcours, mais ses textes sont truffés d'extraits de courriers qu'il recevait de personnes qu'il admirait, des hommes, des femmes aussi. Il était, paraît-il, dans sa jeunesse, un homme qui avait un pouvoir de séduction, au point, paraît-il, que dans le régiment, on l'appelait la bardeau du régiment. Il a donc construit cette légende de l'homme... comment dire, meneur de troupes, qui n'avait pas froid aux yeux, etc. Bon, ce qui était peut-être vrai, mais là n'est pas la question. C'est quelqu'un qui a aussi obéi à des ordres pour faire appliquer la torture, qui a imaginé ce qu'on appelle les crevettes Bijard, donc de faire disparaître des corps en scellant les pieds dans du béton et en lançant les personnes par hélicoptère directement dans la mer. C'est une technique qui sera réemployée ailleurs dans le monde. Donc c'est une figure qui incarne véritablement le pire des guerres coloniales et qui est lié à la torture. Et que la mairie de Toul envisage aujourd'hui, en 2024, alors que justement, comme on le disait, on lutte pour pouvoir... mieux connaître des faits comme cette répression de 17 octobre 1961, qu'il faut que les archives s'ouvrent et qu'il faut que les mémoires s'apaisent. Et pour qu'elles puissent s'apaiser, il faut pouvoir en parler. Et bien qu'une mairie décide de porter à l'honneur comme ça une figure comme Bijard est absolument inadmissible. Il faut œuvrer pour empêcher la réalisation de ce projet. Des historiens d'ampleur nationale, spécialistes de la question, je pense notamment à M. Rissé-Pouty, qui a beaucoup écrit qui a écrit un ouvrage sur Le Pen et la torture, et qui connaît parfaitement ce sujet, fait partie de ces universitaires qui soutiennent aussi l'action du collectif. C'est une affaire dont on vous parlera encore de temps en temps dans Raison Gardée, j'en suis sûre. Le collectif s'apprête à organiser une soirée spectacle justement pour aborder cette question mémorielle. Au niveau national, on peut aussi rappeler que une commission qui s'appelle la commission Stora, qui est une commission qui associe des historiens français et algériens, et dont le but est justement de travailler sur cet effort mémoriel qui doit être fait et de voir comment peuvent être organisées l'instruction, comment peut être organisée l'instruction sur ce sujet dans les écoles et voir comment les historiens en France et en Algérie peuvent travailler ensemble pour construire un discours qui soit un discours objectivement juste sur ce passé douloureux, tragique, qu'est le passé colonial, que nous avons en commun malgré tout, et qu'il faut regarder en face pour pouvoir construire des liens plus apaisés, tout simplement. Je vous propose une nouvelle pause avec La Tordue, une chanson qui évoque justement les faits à Paris en 1961. «
Paris sous Paris, Paris sous la pluie, trempé comme une soupe, sous comme une barrique. Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde, et malgré son penchant pour les cierges, oh. À l'heure où les gardes baillent, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les gogues du diable. Alors paf les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier bien plus bête que leur pied qui ne fut jamais pris au pas de mauvais pli. Dans leur lit refroidi, tombeau des vieilles filles, cachot de la vertu, pourtant pas de ciel en vue. Surtout pas de septième, pour ses corps en carême, au cœur empaillé, au cul embastillé, à l'abri des bascules, et à leur grande âme, qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni l'air, grâce matinée, est-ce pendant que Paris, Paris sous, Paris, Paris, Paris sous, en dessous de tout, dessous par-dessus les ponts. La Seine est jolie, ne serait-ce Morimont qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une Seine tuerie, c'est paraît-il légal, les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Braves policières hordes de coups et de sang ivres qui eurent carte et nuit blanche pour leur apprendre à vivre. À ces rats souches pas franches d'un sang impur et noir, à breuve de caniveau, et on leur fit la peau avant de perdre la mémoire. Des pendants enragés aux fenêtres consentantes, et en passant soit dit qui ne dit mot acquiesce, furent pourtant résonner de la chaussée sanglante jusque dans les Aurès. Leur crise ensevelie sous la froide chaux vive d'une pire indifférence, accompagnée de vives les boules caissées la France. L'histoire de chatouille a toujours au bon endroit, au bon peuple François, dors sur tes deux oreilles, mais je ne tirerai pas, moi sans doute aujourd'hui, que l'histoire ne s'enraye sous le ciel de Paris.
La Tordue, Paris 1961, une chanson qui se prêtait bien au sujet que nous évoquions à l'instant des rapports entre la France et l'Algérie et le massacre d'Algériennes et d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961, qui donc était un événement commémoré il y a peu.
Raison gardée sur RCN, on s'arrête, on réfléchit.
On parlait de Bijard, de l'armée, Charles, toi qui es la fédération, notre spécialiste de la revue de presse et de la sélection d'articles sur les sujets qui nous préoccupent, tu as repéré quelque chose. Alors c'était très récemment, est-ce que tu peux nous dire la date de cet article que tu as vu dans notre journal local?
C'est tout frais, c'est ce matin dans Les Républicains, donc ça se passe au lycée Emmanuel Héré, où il y a un professeur, dont je ne donnerai pas le nom, bien sûr, mais qui est donc chargé, qui s'est chargé donc de défendre le SNU et de travailler là-dessus. Donc il travaille avec les élèves volontaires sur des thèmes de la défense et de la mémoire. Donc c'est un projet pédagogique qui est sur une durée de 2 ans et a pour thématique les hommes et les femmes engagés au service de leur citoyenneté. C'est dans ce cadre qu'une dévolution de drapeaux était réalisée donc le vendredi 11 octobre au lycée en partenariat avec le Souvenir français. Donc fait vivre la mémoire des anciens combattants. C'est un beau projet pédagogique quand même, hein. C'est l'histoire de France, hein. Revisité sûrement, mais bon, voilà. Les élèves ont eu l'honneur de se faire remettre le drapeau de la 1ère armée française, section de Nancy, par le délégué général du Souvenir français de Meurthe-et-Moselle. Donc cette armée a débarqué en Provence en août 1944 pour libérer l'Europe, gagnant de nombreuses batailles sur le Rhin Danube, donc il y a tout le passé historique de ce drapeau-là. Donc qui a été remis donc à un élève donc qui est engagé pour 2 ans dans ce projet pédagogique, voilà. Alors et c'est vrai que c'est un moment avec beaucoup d'émotion, hein, d'après
l'article,
hein, et le professeur de constater combien ces jeunes étaient émus lors de ces évolutions. Ils avaient les yeux qui brillaient.
C'est beau.
Les élèves du lycée Emmanuel Herré seront présents donc aux cérémonies du 11 novembre. Du 8 mai, mais aussi lors des cérémonies en mémoire des victimes d'attentats, et ils sont invités aux cérémonies de libération de l'esclavage. C'est bien, hein, quand même, il y a beaucoup à creuser là-dessus. Mais on peut quand même se poser, que fait le SNU dans nos écoles?
Alors là, ce sont des classes défense, donc ce sont effectivement des partenariats entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Armée, avec des classes qui sont identifiées, parce que ce sont des professeurs qui se propose pour porter ces projets. C'est parfois aussi quelque chose qui est porté par le projet de l'établissement lui-même. Donc parfois, c'est la direction qui va chercher des professeurs pour porter ces classes défense. Et le Service National Universel, pardon, le SNU, qui, dans l'absolu, est censé s'imposer à tout élève de seconde, qui sera très très coûteux. La Cour des comptes a suggéré, en creux, on comprend, de renoncer à ce projet, étant donné la somme, les milliards qu'il faudrait engager pour imposer ce nouveau service militaire qui ne se veut pas militaire officiellement. Il ne faudrait pas que ça se voit de trop. Il s'agirait de généraliser quelque chose qui existe maintenant, mais pour des élèves volontaires qui vont vivre d'abord une quinzaine de jours en cohésion, et qui après peuvent s'engager dans des actions avec des associations, par exemple. Mais ce service national universel, c'est bien un service encadré par l'armée, et c'est bien une nouvelle forme d'embrigadement à l'école qui n'a pas besoin de cela et qui a besoin de financement pour toute autre chose, pour remplir ses missions par exemple.
Surtout pour instruire nos jeunes et puis pour apprendre l'histoire de France à part des cérémonies, commémorations où on sait bien que c'est pas vraiment, on creuse pas le sujet quoi. Pour en parler de budget, le budget il est pris sur le budget de l'éducation nationale, pas celui de l'armée. Hein. Donc, l'armée est quand même bien présente du fait qu'il y a un cérémonial tous les matins, il y a levée des couleurs avec la Marseillaise. Donc c'est quand même assez marqué par l'embrigadement militaire des esprits, et préparer ces jeunes à la militarisation des esprits, comme on peut le voir dans le monde entier à l'heure actuelle, mais ce n'est pas à l'école de faire ce travail-là. Hein. L'école a besoin, si on a besoin d'éducation civique, et morale, c'est pas avec le SNU que ça se fait. Hein. Voilà, il faudrait peut-être apprendre l'histoire de France, déjà chronologiquement, à mon avis. Hein. Après, c'est les enseignants, c'est notre bagarre. Hein. Mais déjà, savoir d'où la France vient et où elle va, ça, on sait pas encore. Hein. Mais c'est assez... c'est quand même... Il a quand même pas beaucoup de succès, ce SNU. Hein. En 2023, il y a eu 32 000 jeunes qui ont répondu à l'appel sur les 50 000 attendus. Enfin, 32 000, pour moi, c'est encore de trop. Mais aussi au niveau de la population qui donc est souvent issue de milieux déjà militaires la plupart du temps dans les enseignants. Donc c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu trop le choix. Papa a dit voilà, donc papa policier, gendarme ou militaire de carrière, donc gamin, tu verras. Gamin, fille, hein, parce que ça concerne, là il n'y a pas de discrimination normalement. Hein.
Oui, c'est pas...
Donc les filles sont concernées aussi. Et aussi, il y a aussi des encadrants qui se prennent aussi dans le style stage commando. On sait qu'il y a eu des marches et des exercices qui sont proches quand même de l'armée. Il y a même eu du tir qui était au programme. Donc quand l'armée, vraiment, le système militaire est quand même bien présent dans cette soi-disant formation. Pour moi, c'est des formations des esprits. Hein.
Oui, on a... on sait qu'il y a eu des manipulations alors d'armes factices, ou d'autres ont dit oui, mais elles n'étaient pas chargées. Mais effectivement, il y a quand même eu une manipulation d'armes, et c'est très clairement militaire.
Ah oui. Mais ça fait. C'est pas, avant les CNU, c'est vrai que l'armée était présente dans les lycées et les écoles pour le recrutement, notamment des armées. Dans les lycées techniques, bien sûr, on a besoin de mécaniciens, d'électriciens, de toutes sortes de métiers. L'armée, c'est vrai, entretient quand même du matériel hein, pour nous défendre en principe, hein, pas pour attaquer.
Non, mais ils sont déjà très largement présents et représentés au moindre forum, moindre salon de l'orientation, moindre portes ouvertes d'établissements scolaires. Ils sont quand même bien organisés pour venir présenter ce qu'est l'armée et recruter.
La gendarmerie, hein, qui a une belle image au niveau de la population, est hyper présente dans les lycées et les collèges, au moins une fois par an. Le protecteur de la veuve et de l'orphelin, il est là.
Et ce que tu disais, effectivement, sur les 50 000 volontaires attendus pour le service national universel, donc on dépasse à peine la moitié dernièrement, effectivement, les jeunes n'en veulent pas de ce service national universel. Ils ne sont pas volontaires pour y aller, parce que s'ils s'engagent, ils s'engagent dans autre chose. Hein. Le discours qui consiste à dire que les jeunes ne s'engagent pas, ne s'investissent pas, déjà on ne s'investit pas à marche forcée comme ça, parce qu'on doit aller faire un service national pendant 15 jours, et puis il est complètement faux. C'est-à-dire que les jeunes ont des causes, ont des combats, et ils savent très bien s'engager quand ils le souhaitent, pour des causes tout à fait nobles.
Et ce qui peut être dangereux aussi dans le projet CNU, c'est que le service national universel peut compter pour le diplôme du brevet.
Du bac.
Du brevet même. Non, parce que ça ne compte pas concerné pour le brevet. Il dit que les élèves de certaines académies inscrits aux épreuves du diplôme national du brevet pour 2024 devaient traiter au titre de l'enseignement moral et civique le sujet suivant, le service national universel et l'engagement. Donc, et comment ça va être noté ? Est-ce que ces notes vont servir ?
Oui, tu parles d'un sujet de brevet, oui.
Bah, parce que ça concerne des collégiens principalement de 15 à 17 ans. Ils ne sont encore pas passés au stade de...
C'est un sujet de brevet qui a été donné, donc qui est très orienté. On se demande effectivement en matière de contenu ce qui était attendu. Mais ce sont les lycéens de seconde qui sont vraiment visés par le SNU. Et la crainte, c'était que le SNU soit obligatoire, et pour le rendre obligatoire, qu'il compte dans la validation du dossier Parcoursup. De même qu'aujourd'hui, un élève doit avoir fait sa journée d'appel pour valider son dossier. Donc ça, c'était la crainte, parce qu'il y a ce moyen-là, techniquement, tout à fait facile à mettre en place hein, pour l'État, de demander la preuve d'une participation au SNU pour le bac. On n'en est pas là, mais... Comme avec certains, le pire n'est jamais sûr, mais on peut l'envisager. Eh bien, restons prudents. Sur ce dernier sujet... Pardon, Charles.
J'ai un petit truc qui est rigolo dans ce truc-là. Le SNU est à l'instruction ce que le répertoire de l'infanterie militaire est à la musique.
Oui, c'est vrai. Il y a de ça. C'est pas faux. On va bientôt se quitter. J'ai envie de terminer par un petit conseil lecture, alors qui croise certains des sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. C'est un ouvrage qui s'appelle « Racisme d'État et État raciste, une brève histoire ». Racisme d'État au singulier et État raciste au pluriel. Un ouvrage d'Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est politologue français, donc spécialisé dans les questions qui ont trait à l'histoire coloniale, au racisme au pluriel et aux origines de l'islamophobie, qui est maître de conférences en sciences politiques à Paris-Saclay et Vry-Val-d'Essonne, qui a aussi enseigné au Collège international de philosophie, donc c'est un CV déjà assez conséquent, et qui a participé avec la Fédération nationale de la libre pensée à certaines émissions de la Fédération sur France Culture, certains dimanches matins. Et c'est un ouvrage dont le titre est quand même assez... assez éclairant, qui montre comment le racisme d'État peut tout à fait s'accommoder d'un État libéral, en travaillant notamment sur le cas de la France, mais pas seulement. Donc, ce qui développe Olivier Lecourt Grandmaison, c'est cette idée que les institutions de l'État, et en particulier la police, ont développé des pratiques racistes, qui ont pu être d'abord expérimentées dans les anciennes colonies, et puis dans les cités des banlieues, avec notamment les contrôles systématiques et répétés d'individus qu'on qualifie aujourd'hui de racisés et qui se montre violent avec nos concitoyens racisés. Il démontre que ces pratiques sont devenues assez courantes et qu'il n'y a pas d'égalité de traitement dans bien des endroits de France selon justement les origines des personnes. Il met donc un peu à mal le mythe national de la terre d'accueil qu'est la France. Ouais, c'est un ouvrage tout à fait intéressant, donc d'Olivier Lecourt Grandmaison, Racisme d'État et État raciste, une brève histoire. C'était notre petit conseil lecture du jour.
Moi j'ajouterais quand même que la France se distingue à ce niveau-là en ce moment en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie.
Et puis on sait bien que les guerres coloniales sont toujours en cours dans des pays pas si lointains. Et la Libre Pensée a aussi exprimé son soutien aux peuples qui se battent pour leur liberté. Et on pense bien sûr au conflit israélo-palestinien et qui maintenant aussi entraîne le peuple libanais dans cette guerre. Bon, c'est une touche un peu sombre pour finir notre émission, mais les choses sont ainsi. Merci Charles et à très bientôt dans une prochaine émission de Raison Gardée.
À bientôt. Au revoir Sylvie.
Au revoir Charles.